France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Un 13-14 en direct de Marseille, une ville face au trafic de drogue.
On a commencé à voir les dealers à l'entrée de la résidence et après on s'est mis d'accord tous les voisins, on est descendu, on s'est mis ici et on restait là tous les jours pour la sécurité de nous, de nos enfants, de nos voisins.
Trois semaines après l'assassinat de Mehdi Kessassi, dont le frère Amine est une figure marseillaise de la lutte anti-drogue, nous avons choisi de revenir sur place dans le cadre de notre journée spéciale. Car ici, la ville s'interroge, les voix les plus engagées se taisent. La préfète de police promet d'intensifier la lutte.
Le trafic de stupéfiants sur Marseille, on va être très clair, il prend une place de plus en plus importante. Il y a de plus en plus de produits qui circulent, il y a de plus en plus de consommateurs, il y a de plus en plus de dealers. Plus qu'un combat, c'est une guerre.
Alors, que faire face à des réseaux qui se reconstituent après chaque enquête? L'État est-il prêt à jouer d'autres cartes que la répression? Sommes-nous dans un moment charnière comme on l'a beaucoup entendu ces derniers jours? C'est pour le savoir que nous sommes ici pour donner la parole à tous ceux, à toutes celles qui se battent, autorités et habitants. Sans oublier avec vous Sarah Mansoura. Bonjour Sarah.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
En studio, toute l'actualité de ce mercredi a commencé par la qualité de l'eau du robinet.
De l'Hexagone à l'Outre-mer, un polluant éternel présent dans presque toute l'eau potable en France. L'ANSES dévoile les résultats de prélèvement. C'est la première fois que les services de l'État le mesurent de manière aussi complète. Couper définitivement le robinet du gaz russe. État membre de l'UE et eurodéputés s'accordent sur un calendrier de sortie à l'automne 2027. Nous serons à Bruxelles. Israël annonce que des Gazaouis pourront bientôt sortir vers l'Égypte. Réouverture annoncée du poste de Rafah, réclamé de longue date par l'ONU. Le retour des militants anti-bassines devant la justice. Un procès en appel à Poitiers. Le chemin plutôt dégagé dans la course du 15 de France de rugby. Un premier titre mondial en 2027. Des adversaires en poule plutôt abordables. Et enfin, bien sûr, les sorties cinéma d'Alexis Demeyer.
Et puis juste avant 14h, puisque Marseille ne se résume pas au trafic, nous vous dévoilerons en exclusivité un peu du spectacle de dimanche, ici autour de Notre-Dame de la Garde, restaurée. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Pour débuter ce 13-14 en direct de Marseille, nous avons choisi de nous positionner à l'entrée du palais de justice de la ville, à 500 mètres du Vieux-Port, devant le square Pierre Michel. Pierre Michel était juge d'instruction, il était en première ligne dans la lutte contre le trafic de drogue dans les années 70. Il a été assassiné en octobre 1981 alors qu'il venait de quitter ce palais de justice. Et chaque année, le 21 octobre, en sa mémoire, une minute de silence est ici respectée. Tout ça pour vous dire que Marseille et la drogue, c'est une longue histoire. Bonjour Olivier Laurent.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du tribunal judiciaire de Marseille. Est-ce qu'on est à nouveau en cette fin 2025, à un moment de bascule? Trois morts ces dernières semaines, dont un jeune de 15 ans, retrouvé mort, calciné il y a quelques jours dans le coffre de sa voiture.
On est sans doute à un point de bascule après l'affaire Kessassi, puisque effectivement ça a été qualifié comme tel, d'un assassinat, d'intimidation d'une personne qui n'avait rien à voir avec un trafic de stupéfiants et qui a été très lâchement assassinée pour intimider l'expression publique de son grand frère contre le narcotrafic. Donc de ce point de vue, effectivement, on peut qualifier cet acte d'un point de bascule.
Je voudrais vous faire écouter un témoignage, Olivier Laurent. Au printemps dernier, notre journaliste Mathilde Vinceneux a rencontré l'un de ces jeunes qui vendent sur les points de deal. On les appelle très souvent les charbonneurs. Il a 17 ans et il venait donc il y a quelques mois de passer un mois dans une prison pour mineurs, condamné pour trafic de stup. Il nous explique qu'il est dans le trafic depuis le collège.
J'ai commencé à l'âge de 14 ans dans le stup. Au début, j'ai commencé en tant que guetteur. Je continue à aller à l'école et le week-end, j'allais travailler le samedi, dimanche ou le mercredi après-midi, le soir. Et au bout d'un moment, dès que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'argent à prendre dans ce milieu, je me suis dit pourquoi continuer l'école si je peux gagner de l'argent plus facilement. Du coup, j'ai arrêté d'aller à l'école et j'ai fait un an dans un réseau à Marseille. Et depuis, ça s'est plus arrêté. Après, j'ai commencé à vendre, il y a plusieurs rôles dans tout ça.
Pourquoi t'avais besoin d'argent comme ça?
C'était
à 14 ans
pour profiter de la vie un peu. Et à ce moment-là, je fumais pas. Ça veut dire que c'était clairement que pour du loisir et tout ça. Et après, j'ai commencé à fumer. Du coup, c'était pour dépenser dans ma fumette et tout ça, ou des habits un peu de marque.
Est-ce qu'il t'est arrivé des moments où on a tiré sur le point de deal où t'étais, des choses comme ça?
Plusieurs fois. La plus marquante, c'était à Arles. Et il y a une voiture qui est venue à peu près vers 22h, un truc comme ça. La nuit, elle a tiré en l'air. pour intimider. Et après, elle est repartie. Et à ce moment-là, moi, je vendais à ce moment-là. Et je suis resté dans le point de deal et personne m'a dit d'arrêter de vendre ou quoi. Ça m'a un peu marqué à ce moment-là. On peut perdre la vie trop facilement dans ce milieu-là. Il y a eu pas mal de morts. Hein. Il y a un collègue à moi, il s'est tiré dessus à la jambe, au mollet. Là, en prenant un peu de recul, j'ai envie d'arrêter, là, au bout d'un moment. J'ai pas envie de finir mort ou en prison, encore une fois, parce que bientôt la majorité et les sanctions, c'est plus les mêmes.
Des sanctions plus lourdes après 18 ans. Voilà témoignage recueilli au printemps dernier de ce jeune homme qui, depuis, ne nous a plus donné de ses nouvelles. Olivier Laurent, vous êtes le président du tribunal judiciaire de Marseille. Des jeunes comme celui qu'on vient d'entendre, vous en voyez beaucoup ici, au tribunal.
Oui, au tribunal pour enfants, on est confronté quotidiennement à cet engrenage, ces recrutements de très jeunes mineurs dans les réseaux de trafic de stupéfiants. Ce témoignage, il appelle deux observations de ma part. La première, c'est que on comprend bien la recherche du gain facile, de l'argent facile. On comprend aussi les angoisses que ça génère ce jeune. Et nous avons, nous, à Marseille, plusieurs juges des enfants qui ont eu des mineurs assassinés. Ce que je voudrais dire, c'est que quand on s'embarque dans des réseaux de cette nature, eh bien, on prend le risque d'être tué, assassiné, brûlé, torturé. On a de nombreuses affaires criminelles, d'actes de torture et de barbarie sur de très jeunes majeurs ou des mineurs. La deuxième observation, c'est que, vous l'avez intitulé comme cela, la lutte contre le trafic de stupéfiants, c'est l'affaire de tous. Ouais. Et effectivement, c'est l'affaire de tous. Ça veut dire que la justice à elle seule ne peut rien. La police non plus, c'est vraiment une question de société. Nous devons œuvrer dans le même sens pour lutter contre ces réseaux. Éducation nationale, santé, justice et bien sûr aussi police et gendarmerie.
C'est de cela dont on va parler ensemble jusqu'à 14h avec nos invités qui nous attendent à quelques centaines de mètres ici, toujours dans le cœur de Marseille. On va les rejoindre. Merci Olivier Laurent. Vous m'accompagnez jusqu'à 14h. Nous serons notamment avec le journaliste Philippe Pujol et avec la militante Fadela Widef qui, dans le quartier de la Busserine, œuvre pour aider les familles qui sont confrontées à ce trafic. Avant cela, on vous retrouve Sarah Mansoura pour l'actualité de ce mercredi et donc ce rapport des autorités sanitaires sur la qualité de l'eau.
C'est la première fois que l'ANSES publie des résultats aussi larges sur l'analyse de l'eau. L'Agence nationale de sécurité sanitaire vient en effet de détailler ses résultats de mesure des PFAS, ces polluants éternels, dans l'eau avant traitement, mais aussi l'eau du robinet. Une étude lancée pour préparer l'application de la directive européenne applicable au 1er janvier prochain. 20 PFAS seront testés systématiquement dans notre eau potable. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
L'ANSES a élargi ses recherches. 15 autres ont été testés. Sans grande surprise, ils sont largement présents dans notre eau.
Oui, c'est la campagne de prélèvement la plus large jamais menée par l'ANSES et son laboratoire de Nancy. Plus de 1200 points testés, la moitié avant traitement, des eaux de rivière, de lacs, de nappes, l'autre moitié provenant de nos réseaux d'eau. L'ANSES a donc testé les 20 PFAS que l'Europe obligera à surveiller systématiquement à partir du mois prochain, mais aussi 15 autres. Résultats, 11 PFAS listés par l'Union européenne sont fréquemment retrouvés, comme le PFOS, classé cancérogène possible par le Centre international sur le cancer. La directive prévoit que la somme de tous ces PFAS ne doit pas dépasser un certain seuil, 100 nanogrammes par litre, ce qui est le cas pour seulement 9 échantillons. L'ANSES ne note pas de différence de taux de concentration de PFAS entre les eaux brutes et les eaux du robinet, ce qui démontre l'effort à fournir pour traiter nos eaux.
Et ce que démontre vraiment cette étude, Rémi, c'est l'omniprésence d'un PFAS qui ne fait pourtant pas partie de cette liste européenne.
Oui, dans plus de 9 échantillons sur 10, le TFA, acide trifluoroacétique, il est présent. Plusieurs études pointent un risque pour le développement du fœtus, notamment. Il ne figure pas encore sur la liste européenne des PFAS à surveiller. Son origine est multiple. Certains pesticides génèrent du TFA en se dégradant. Les évaluations européennes de ces substances sont en cours. Elles doivent progresser, dit Charlotte Grastilleur, directrice adjointe des produits réglementés à l'ANSES.
Il existe des substances qui manifestement conduisent à une dégradation partiellement en TFA. Et sur celle-là, il faut une réévaluation rapide pour vérifier les risques de pollution, finalement, notamment des eaux souterraines.
L'Agence européenne doit définir l'an prochain une valeur de référence pour le TFA. L'ANSES recommande de l'ajouter à la liste des PFAS à évaluer systématiquement dans notre eau potable.
Merci Rémi Brancato, service Sciences, Santé, Environnement. Près de 4 ans après l'invasion de l'Ukraine, l'Union européenne s'attaque à l'un des nerfs de la guerre, le gaz russe. russe, eurodéputés et États membres se sont accordés la nuit dernière sur un calendrier de sortie totale d'ici 2027. La Commission européenne l'avait proposé dès le printemps dernier. Alors désormais, quel sera le calendrier de cette sortie à Bruxelles, Fabien Cazot?
Ce sont d'abord les contrats courts signés avec la Russie, ceux qui sont les plus faciles à arrêter et à remplacer, qui devront s'interrompre dès le printemps prochain. En avril, pour le gaz naturel liquéfié qui arrive dans les grands ports européens par bateau. En mai, pour le gaz qui arrive encore par des gazoducs en provenance de Russie. Ce sont ensuite les contrats d'approvisionnement à long terme qui sont appelés à s'éteindre. Au 1er janvier 2027, comme cela a été prévu dans le dernier paquet de sanctions économiques adoptées contre la Russie pour l'importation de GNL, et donc à l'automne 2027 pour les derniers contrats à long terme d'approvisionnement par gazoduc. Juridiquement, l'équivalent d'une clause de force majeure pourra être invoquée pour la résiliation des contrats existants. L'Union européenne espère ainsi se libérer totalement de sa dépendance au gaz russe, qui représentait encore l'an dernier 19% du total de ses importations.
Fabien Cazot, correspondant d'Inter à Bruxelles, où le négociateur de Kiev dans les pourparlers pour mettre fin à la guerre en Ukraine va rencontrer aujourd'hui des responsables européens pour discuter de la réunion d'hier à Moscou entre les représentants américains et Vladimir Poutine. Aucun compromis n'a été trouvé hier sur la question des territoires occupés par la Russie. L'Ukraine également au menu de la rencontre entre Emmanuel Macron et Xi Jinping. Le président français est arrivé en Chine ce matin, visite d'état de 2 jours pour parler aussi commerce et défendre les intérêts français et européens sur fond de tension avec Pékin. C'est une mesure qui s'inscrit dans le cadre du plan de paix américain et de l'actuel cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Résultat aussi et surtout des pressions américaines sur l'État hébreu. Israël annonce que le passage de Rafah au sud de la bande de Gaza pourrait rouvrir dans les prochains jours pour permettre à des Gazaouis de quitter le territoire vers l'Égypte. Les précisions depuis Jérusalem de Michel Paul.
C'est visiblement le résultat de fortes pressions américaines sur Israël. La décision intervient après un long blocage initialement prévu lors du cessez-le-feu d'octobre dernier. L'ouverture du terminal de Rafah avait été gelée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Réouverture donc, mais à sens unique. Le ministère israélien de la Défense précise que le passage sera opéré en coordination avec l'Égypte et sous la supervision d'une mission de l'Union européenne. Dans un second temps, l'entrée de résidents dans l'enclave pourrait être permise sous réserve de la restitution des 2 corps d'otages qui se trouvent toujours à Gaza. Le djihad islamique a d'ailleurs annoncé le début des recherches d'une dépouille dans le nord de Gaza, après que des restes remis hier par le Hamas ont été identifiés comme n'appartenant à aucun des otages disparus. Pour rappel, Rafah est un point de passage crucial, vital pour la sortie des Palestiniens, mais aussi pour l'entrée de l'aide internationale et du carburant. Jérusalem, Michel-Paul RFI pour France Inter.
Et à l'instant, l'Égypte dément tout accord avec Israël pour ouvrir ce poste frontière de Rafah aux seules sorties de Gaza. Si un accord est conclu, celui-ci se fera dans les 2 directions pour entrer et sortir, conformément, dit l'Égypte, au plan du président américain Donald Trump. En Algérie, le journaliste français Christophe Glaize doit être fixé sur son sort aujourd'hui. La cour d'appel de Tizi Ouzou doit prendre sa décision dans la journée. Christophe Glaize, journaliste de sport, condamné en première instance à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme. Il avait été arrêté en mai 2024 alors qu'il travaillait sur un club de football algérien. 3 morts la nuit dernière dans un accident de la route à Alès, dans le Gard. Les jeunes à bord étaient âgés de 14, 15 et 19 ans. Leur voiture a raté un virage et terminé dans une piscine privée. Selon des sources policières, plusieurs bouteilles de protoxyde d'azote ont été retrouvées dans le véhicule. Ludovic Labastrou.
Vers 1h30, le véhicule à forte vitesse rate le virage en épingle, la chaussée est mouillée, il heurte un trottoir puis un muret d'une trentaine de centimètres, la voiture se retourne et termine sur le toit dans la piscine en eau, une piscine aux dimensions exactes du véhicule. Les 3 jeunes n'ont pas pu s'en extraire. Pour l'heure, on ignore qui conduisait. À l'intérieur de la voiture, 4 bonbonnes de protoxyde d'azote. Les analyses toxicologiques doivent déterminer dans les 72 heures s'ils en avaient consommé. Concernant le profil, le parquet d'Alès confirme que les jeunes étaient connus des pour des liens avec le trafic de stupéfiants, notamment le jeune de 15 ans qui avait été arrêté ce dimanche sur un point de deal à Alès.
Ludovic Labastrou, ici Gare Lozère. Et le procureur d'Alès a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort. Un homme tué par balle en pleine nuit, la nuit dernière, à Échirolles, dans la banlieue de Grenoble. L'identité de la victime n'est pas connue, mais selon les informations, il portait un gilet pare-balles. Le retour du dossier Sainte-Soline devant la justice. Près de 2 ans après leur condamnation par le tribunal de Niort, 4 des les 9 militants anti-bassines condamnés pour avoir organisé ces manifestations contre les gigantesques retenues d'eau dans les Deux-Sèvres sont rejugés en appel à Poitiers. Première audience aussi depuis la publication par Mediapart et Libération de vidéos de la deuxième grande manifestation dite Sainte-Soline 2 en 2023. Des vidéos qui accablent les gendarmes sur leur maintien de l'ordre ce jour-là. Ce n'est pas ça qui sera jugé aujourd'hui, Marie-Astrid Guégan, mais cela va teinter l'audience.
Les images des gendarmes lançant des tirs interdits sur des manifestants au procès.
Elles sont dans les têtes de tout le monde.
Selon Julien Leguet, le porte-parole de Bassine Non Merci, est l'un des quatre prévenus.
C'est pas hors sujet de questionner la doctrine de maintien de l'ordre.
Sauf que ces images ont été filmées lors de la deuxième manifestation de Sainte-Soline, alors que ce procès en appel ne s'intéresse qu'à la première, celle d'octobre 2022.
Ces images disent la vérité à laquelle on a eu à être confronté lors de toutes ces manifestations le 29 octobre 2022. Il y a 2000 bombes de type lacrymogène ou des encerclements qui ont été lancées, notamment sur des cortèges parfaitement pacifiques.
Le militant veut aussi rappeler que depuis le premier procès, la bassine de Sainte-Soline a été jugée illégale, mais les avocats, eux, vont surtout chercher à démontrer qu'il n'y a rien dans le dossier. Alice Becker défend l'un des deux syndicalistes.
Un, il a déposé en préfecture une demande d'autorisation de manifester, qui a été refusée. Et de deux, il a pris la parole à une manifestation. Donc je ne vois pas lequel de ces deux actes qui juridiquement sont irréprochables peuvent amener à des poursuites pour des faits d'organisation.
L'avocate espère la relaxe. En première instance, les quatre prévenus avaient écopé de peines allant de 500 euros d'amende à 6 mois de prison avec sursis.
Marie-Astrid Guégan ici, Poitou, et l'audience est dans un peu moins d'une heure au tribunal de Poitiers. Le fabricant d'électroménager Brandt sera-t-il sauvé par une SCOP ? L'audience décisive a débuté en fin de matinée au tribunal des affaires économiques de Nanterre. Brandt, en redressement judiciaire, mise sur une société coopérative pour sauver ses deux usines dans le Loiret et le Loiret-Cher. Lundi, le gouvernement a annoncé un soutien de l'État à hauteur de 5 millions d'euros, mais dans le cadre d'un projet de reprise en SCOP. L'association UFC Que Choisir avait déposé une plainte au printemps contre 4 constructeurs automobiles au sujet des airbags défectueux Takata. C'est maintenant l'association de consommateurs CLCV qui annonce une action de groupe contre Stellantis aujourd'hui. Action pour faire valoir le préjudice des propriétaires de véhicules équipés de ces airbags. CLCV dénonce une campagne de rappel tardive, partielle, désorganisée et invite les propriétaires concernés, notamment de véhicules Peugeot, Citroën, Fiat ou Opel, à se manifester. Le verdict est tombé il y a quelques heures à Sydney. Tirage au sort de la Coupe du Monde de rugby 2027 en Australie, qui a dessiné donc la route que devra emprunter le 15 de France jusqu'à la finale, on l'espère, à Brisbane. Chemin plutôt dégagé dans cette compétition nouvelle formule à 24 équipes. Bonjour Vincent Pellegrini.
Bonjour Sarah.
On peut le dire aujourd'hui, tirage plutôt clément pour le 15 de France.
Oui, le 15 de France qui était tête de série voulait éviter l'Australie, pays organisateur qui figurait dans le deuxième chapeau. C'est chose faite et effectivement ce tirage au sort a été très favorable aux Bleus. Ils affronteront 3 équipes très largement à leur portée, le Japon, les États-Unis et les Samoa, avant un 8e de finale possible face à l'Écosse. Et si on se projette un peu plus loin, là se dressera une montagne pour les joueurs de Fabien Galthié, une éventuelle demi-finale face à l'Afrique du Sud ou la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande qui est tombée dans le groupe de l'Australie et ce sera la rencontre la plus attendue du premier tour. Ce pourrait d'ailleurs être le match d'ouverture de ce Mondial 2027. Il faudra un peu patienter pour connaître le calendrier du 15 de France dans ce premier tour. Il sera dévoilé le 3 février prochain, 2 semaines avant l'ouverture de la billetterie.
Et la préparation a donc commencé. Vincent Pellegrini, merci. Service des sports.
Oh capitaine, mon capitaine, tu sautes, moi je saute, pas vrai.
Et oui, mercredi, c'est cinéma. Bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour Sarah.
On commence avec Mektoub My Love, Kanto Doué, 8e long-métrage du sulfureux Abdelatif Kechiche.
Oui, la sortie en salle de la 3e partie de cette fresque sétoise a longtemps été repoussée. Le Kanto Uno avait marqué les esprits en 2018, mais l'Intermezzo avait fait scandale un an plus tard à Cannes. Et depuis, Kechiche, englué dans une affaire d'agression sexuelle, puis victime d'un AVC, n'avait donné que très peu de nouvelles.
Amin, he wants to make cinema.
I will read his screenplay.
And we'll make a big couscous for you.
Nous retrouvons donc Amin, l'alter ego de Kechiche, en négociation avec un producteur américain. Nous retrouvons aussi Ophélie, Tony et tous les autres lors de cet été 94 où leur destin va basculer. Malgré quelques tics de mise en scène et un brin de manichéisme parfois, cette suite est peut-être fin de la saga Mektoub My Love, reste de très très haut niveau.
À l'affiche également, Les Enfants vont bien avec Camille Cotin et Monia Chokri.
J'ai l'impression que votre sœur, elle était à bout et qu'elle est partie. Ça ressemble plus à une disparition volontaire qu'à une disparition inquiétante.
Donc vous n'allez pas aller la chercher ?
La voix que l'on vient d'entendre, c'est celle de Camille Cotin, alias Jeanne, une femme qui doit du jour au lendemain s'occuper de son neveu et de sa nièce. La sœur de Jeanne, sans doute victime de surmenage, s'est en effet évaporée. Ce joli mélodrame est mis en scène avec délicatesse par le décidément prometteur Nathan Ambrosioni, qui signe ici son troisième long métrage à seulement 26 ans.
Et puis le biopic de la semaine nous vient d'Italie, ça s'appelle Fuori.
Oui, c'est Mario Martone qui réalise ce joli portrait de femme, celui de l'écrivaine Goliarda Sapienza, figure de la gauche italienne de la fin du XXe siècle.
Quelle donne le Bibbia stanno dentro, anche quando stanno fuori. Così, quando siamo insieme.
Fuori signifie dehors en italien, et c'est une allusion à l'univers carcéral au cœur de ce film qui retrace en effet la vie mouvementée de l'autrice du chef-d'œuvre L'Art de la joie, passée par la casse-prison pour vol de bijoux.
En salle donc dès aujourd'hui. Merci Alexis Demeyer, spécialiste cinéma et de l'Italie. À Marseille, il n'y a qu'un pas, nous retrouvons Jérôme Cadet pour ce 13-14 spécial narcotrafic.
Exactement, on va discuter ensemble avec nos invités ici en direct de Marseille dans une poignée de secondes. À tout de suite.
France Inter, 16h-18h, Mathieu Noël.
Il n'y a pas que sur mon petit France Inter qu'on sait s'amuser. Ce mercredi, exclusivité mondiale dans Zoom Zoom, puisqu'on reçoit le Père Noël, ou plus exactement Patrick Timsit, qui joue le Père Noël dans ce qui devrait être la comédie familiale de cette fin d'année.
Zoom Zoom Zen, tous les jours de 16h à 18h sur France Inter.
Bonjour, je m'appelle Eya Belkirat, je suis conseillère EDF pour les entreprises. Mes clients entrepreneurs veulent une gestion sans imprévu de leur budget électricité. Alors, je leur propose un contrat EDF adapté à leur activité, dont la part énergie est à prix fixe de 1 à 4 ans. Ils peuvent ainsi mieux maîtriser leur budget et être plus tranquilles. Appelez-nous au 3022.
EDF. Service gratuit, prix d'un appel local. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Contrat à prix fixe de l'énergie, hors répercussion des évolutions réglementaires prévues dans le contrat.
Je m'appelle Damien, j'ai 35 ans, et ça fait 10 ans que je suis aveugle. Au départ, franchement, j'étais complètement désemparé. Il m'a fallu du temps pour accepter, pour m'adapter, pour me former, et puis pour trouver un nouveau travail. Heureusement, j'ai été aidé par l'association Valentin Ahuy.
Vous aussi, vous voulez aider les aveugles ? Inscrivez l'association Valentin Ahuy dans votre testament pour lui transmettre votre patrimoine. Renseignez-vous auprès de Dorothée à l'association Valentin Ahuy, 5 rue du Roc, Paris 7e.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Le temps de votre après-midi. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Ici à Marseille, il pleut, nous avons été obligés de rentrer et nous mettre à l'abri.
Mais
vous
le
confirmez ?
Oui, je le confirme. Et c'est pas qu'à Marseille, hein. C'est comme ça depuis ce matin. Et sur le Var également cet après-midi, on a encore de bonnes averses de façon générale. Mis à part sur les côtes du Languedoc-Roussillon, où on a un petit peu de soleil aujourd'hui, le ciel est couvert et pluvieux sur tout l'est du pays avec de la neige sur les reliefs à partir de 1000 mètres. Pour l'ouest, c'est plus calme avec des éclaircies entre les Pays de la Loire, l'Île-de-France, la Pointe-Nord cet après-midi. Lumineux également près des côtes de la Manche et les côtes atlantiques avec encore un risque d'averse. Quant aux températures, elles sont de saison. Une moyenne de 7 à 15 degrés du nord au sud. Et à Marseille, où vous vous trouvez Jérôme, il fait actuellement 12 degrés.
Céline Dacosta.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Un 13-14 sur le terrain, donc aujourd'hui en direct de Marseille, trois semaines après l'assassinat du jeune Mehdi Kessassi, petit frère d'Amine, ce militant écologiste, fondateur de l'association Conscience, engagé contre les trafics, trafic de drogue notamment, un crime d'intimidation, a dit le ministre de l'Intérieur il y a quelques jours, et alors que France Inter consacre donc cette journée au narcotrafic et à ses ravages, nous sommes installés au cœur de Marseille, 6e arrondissement, tout près du palais de justice où nous étions il y a quelques minutes, tout près de la préfecture également, car ce trafic ne concerne pas que les quartiers nord, même si l'essentiel des points de deal y sont concentrés, tous concernés. C'est d'ailleurs le sous-titre de cette journée spéciale sur Inter. Je vous présente nos invités. Fadela Ouidef, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous habitez le quartier de la Busserine, 14e arrondissement de Marseille, qui est un lieu qui est très touché par les trafics. Vous y êtes administratrice du centre social, cofondatrice de l'association Arc-en-Ciel, qui organise notamment des maraudes pour les plus démunis. Vous êtes aussi membre du groupe de veille du quartier. Vous nous expliquerez ce que c'est que le groupe de veille. Tout cela en plus de votre travail, de l'éducation de vos quatre enfants. Et donc, je vous remercie d'avoir pris un peu de temps sur cette longue journée de boulot. l'eau pour venir nous parler de votre engagement. Philippe Pujol en face de vous, bonjour.
Bonjour.
Journaliste, prix Albert Londres il y a une dizaine d'années, déjà pour un travail journalistique dans les quartiers nord, autour des trafics que vous documentez inlassablement. Cramer les enfants du monde, chez Julliard, c'était l'an dernier votre dernier ouvrage. Toujours autour des jeunes hein, et du trafic. Merci d'être là. Olivier Laurent, rebonjour, président du tribunal judiciaire de Marseille. Nous étions ensemble il y a quelques minutes, juste devant le tribunal. Nous serons rejoints dans quelques minutes par Bernard Marty. Je vous salue,
bonjour.
Monsieur Marty. Bonjour, je vais vous donner la parole dans un instant. Vice-président de la CCI, président de l'UMI Bouches-du-Rhône, en charge du commerce. On parlera notamment de cette criminalité qui monte en puissance sur le volet extorsion de fonds. Vous nous direz si les bars, les restaurants que vous représentez sont concernés. Je salue aussi Mathilde Vinceneux. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Notre correspondante ici à Marseille, dont vous écoutez depuis ce matin les reportages consacrés notamment au trafic. On va avec vous retrouver dans quelques minutes des familles qui tentent d'occuper le terrain face aux dealers. Et puis on verra comment les douanes concentrent leurs efforts sur la détection des drogues au port de Marseille. Vous nous expliquerez comment ça se passe. Fadela Ouidef, je voudrais commencer avec vous. Après la mort de Mehdi Kessassi il y a trois semaines, beaucoup d'acteurs, et Mathilde Vinceneux nous l'a raconté ce matin sur Inter, hésitent à parler, ne parlent plus. Pas vous. Pour quelle raison ?
Parce que on a besoin de se faire entendre, oui, un sentiment de peur. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'après la mort de Mehdi Kessassi, on a eu encore des meurtres cette semaine. On a eu un petit de 15 ans, on a eu des fusillades. Donc,
un jeune c'est de 15 ans retrouvé eux, brûlé voilà. dans une voiture. Voilà.
C'est pour eux aussi que je prends la parole. On a toujours été combatifs dans les quartiers, parce que c'est tout ce qui nous reste. Et aujourd'hui, je me dis que la peur ne prendra pas le dessus sur tous les combats qu'on mène.
La mort, l'assassinat de Mehdi Kessassi a été un choc pour vous ?
Oui. Chaque décès dans ce contexte-là est un choc et douloureux. Celui de Mehdi représente quelque chose de différent. On en est tous conscients et c'est pour ça que je comprends tout à fait... Les gens qui ont décidé d'arrêter de prendre la parole ou de se montrer, je le respecte totalement.
Olivier Laurent, vous nous avez expliqué tout à l'heure à quel point cet assassinat constituait une bascule. Vous aviez eu des mots très forts au mois de janvier en expliquant que vous faisiez face, en tant que président du tribunal judiciaire, à un tsunami d'affaires criminelles, sous-entendant que peut-être les moyens n'étaient pas forcément là pour faire face à cette vague de dossiers. Est-ce que vous êtes toujours dans ce tsunami, face à ce tsunami aujourd'hui ?
Alors, on avait effectivement alerté le Sénat dans le cadre d'une audition devant une commission parlementaire sénatoriale qui a donné d'ailleurs lieu ensuite à une loi, dite loi narcotrafic. Nous avions alerté les sénateurs sur une vague que nous assimilions à un tsunami. Je dirais qu'aujourd'hui, cette vague, elle est encore haute. Nous avions dit que nous risquions de perdre la guerre. La guerre n'est pas perdue. Il y a des résultats depuis 2023, depuis cette vague. Je rappelle qu'en 2023, il y a eu 49 narcomicides. On en est une quinzaine aujourd'hui. Qu'il y avait 180 points de deal qui ont été pour partie démantelés.
Moins de morts, ça ne veut pas forcément dire moins de trafic.
Moins de trafic, mais tout de même, c'est moins de violence. Nous avons 2000 personnes qui ont été mises en examen, 700 personnes qui ont été placées en détention provisoire. Donc il y a eu des résultats et grâce effectivement aux moyens qui ont été donnés aux services de police et de gendarmerie, mais aussi à la juridiction, puisque depuis 2021, nous avons obtenu 21% de magistrats en plus. C'est 22 magistrats du siège, une bonne dizaine de magistrats au parquet. Et ça permet de mieux gérer ces affaires, même si, encore aujourd'hui, nous manquons de greffiers, nous manquons également d'assistants spécialisés, d'attachés de justice, donc ce qui compose l'équipe juridictionnelle. Donc le tsunami n'est pas encore totalement digéré. La guerre, néanmoins, n'est pas perdue et il faut continuer la lutte.
On parlera de l'accompagnement, notamment des jeunes dont vous avez la charge. Ça concerne notamment les juges pour enfants, Olivier Laurent. Mais vous avez prononcé le mot narco-banditisme, narcotrafic. On a choisi de retenir cette expression, Philippe Pujol. Est-ce que vous la validez, cette expression de narcotrafic qui prospère depuis quelques semaines, depuis quelques années maintenant.
Finalement, ce que j'en pense, c'est pas très important, mais pour moi, narcomicide, narcotrafic, narcobanditisme, encore plus narcoville et narco-état, n'a pas de sens par rapport à la réalité du trafic. Non pas que le trafic soit petit, mais c'est son organisation qui n'a pas de rapport avec le narco, parce que quand on entend narco, on entend Mexique, entend Colombie, c'est ça qu'il veut dire. Parce que finalement, dans l'étymologie, ça va, narco, ça veut dire drogue. Mais il y a un côté romantique qui nous amène vers le Mexique, la Colombie et tout ce système-là. Je rappelle que dans ces pays-là, ce sont des producteurs, qu'il y a des quantités astronomiques de drogue qui sont ensuite envoyées vers des pays, hein, comme les pays d'Europe. Et donc, il y a beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de corruption. Et en termes d'homicide, c'est même pas comparable. C'est peut-être 100 à 200 fois plus de morts là-bas qu'ici. Donc je dis pas qu'ici c'est pas grave. Je dis que c'est pas le même phénomène. Je dis qu'ici même c'est un phénomène qui est plutôt un phénomène qui est la conséquence d'une problématique que moi j'appelle le monstre et qui est finalement une sorte de malfaçon de toute notre République. Tout ce qui dysfonctionne va générer des ressentiments chez une partie de la population et une des radicalisations qui existe, c'est la radicalisation délinquante. Et donc, elle est à disponibilité, elle est là, et donc, beaucoup se radicalisent. Et on remarque qu'il y a beaucoup de jeunes qui tuent des jeunes. Ça, c'est un phénomène nouveau, qui a une dizaine d'années. C'est tout simplement parce que le banditisme, aujourd'hui, s'est fragmenté encore plus qu'avant. Le grand banditisme existe toujours, mais il se tue pas franchement, ou il se tue pas ici, il se tue plutôt en Espagne ou ailleurs. Et le petit banditisme, hyper concurrentiel, s'entretue, donc c'est des jeunes qui tuent des jeunes. C'est finalement assez logique. Donc, on n'est pas dans le fantasme du narcotrafic, dans le sens mexicain, hein. Ouais. Mais pour autant, c'est grave quand même, et il y a quand même de l'argent qui remonte sur des gros bonnets, et il faut quand même avoir une action répressive et judiciaire,
est-ce
évidemment.
Est-ce que vous parlez possible. De mafia, vous qui connaissez bien ces réseaux, est-ce qu'on parle de bande, est-ce qu'on parle de mafia?
Là, pareil, si on parle de mafia, on va prendre l'Italie comme exemple.
Il y a des images.
Donc la mafia, c'est trois critères, il faut que ce soit pérenne dans le temps. La DZ Mafia, ils en sont à leur septième chef en 3 ans, donc c'est pas du tout de la pérennité. La plupart sont en prison, puis on en met d'autres, puis en prison, puis ils meurent, puis en prison. Enfin bref, il y a aucune pérennité. Et en plus, il se passe pas l'héritage, pas du tout. Il faut recommencer un peu. Deuxième critère, c'est qu'il faut qu'il y ait une corruption forte dans le monde politique. S'il y a une corruption, elle n'est pas non plus comme au Mexique. Et enfin, il faut qu'une grande partie de la population bénéficie de cette mafia. À Marseille, c'est plutôt une grande partie de la population qui n'en bénéficie pas. Donc c'est pas une mafia, c'est quelque chose de plus sournois, quelque chose de plus dur à combattre. Pas moins grave, mais c'est pas une mafia. Si on met des juges anti-mafia, ils n'auront pas de résultats.
Alors, vous avez parlé de la fragilité, des fragilités de notre pays dont profitent les trafiquants. On en parlera avec vous, Fadel Abouidef, dans un instant. De la corruption, il y a aussi cette cellule anti-corruption qui a été lancée il y a quelques mois ici à Marseille. Olivier Laurent, vous nous en parlerez. D'abord, je voudrais qu'on aille dans le 11e arrondissement de Marseille avec vous, Mathilde Vinceneux. Les Marseillais face au trafic, des habitants qui se mobilisent. C'est le cas dans la résidence du parc Belle Ombre, copropriété à l'est de la ville. Le trafic de stup a essayé de s'y installer l'été dernier, mais les habitants ont résisté et ils ont même, Mathilde, réussi à déloger les guetteurs et les vendeurs.
Oui, pour le décor, la résidence du parc Belle Ombre, c'est un ensemble de 4 tours des années 60, une quinzaine d'étages. C'est une copropriété dégradée, proche de l'autoroute A50, c'est facilement accessible. C'est un point stratégique pour le trafic de stup. Et cet été, des guetteurs et des vendeurs se sont installés et des annonces ont été publiées sur les réseaux sociaux pour attirer les consommateurs vers la résidence, comme le raconte Ahmed, un habitant.
On a commencé à voir les dealers à l'entrée de la résidence et il y avait un à l'entrée, un à la sortie, il y avait un vendeur ici. Ça a duré 2, 3, 4 jours. Ils ont commencé par faire des pubs sur Snap, en fait, sur les Snap, les réseaux sociaux. Et voilà l'ouverture du four et tout.
Le four, c'est le point de vente.
Voilà, c'est le point de vente, exactement. Il y avait des pubs, voilà.
Alors les voisins de la résidence se sont organisés, ils ont échangé sur des boucles WhatsApp. Ils sont descendus en nombre pour parler aux dealers, leur demander de partir. Puis ils ont mis en place des rondes. Les mamans aussi se sont mobilisées, raconte Roudaina, une autre habitante.
On avait peur pour nos enfants, donc on s'est tous concertés et puis on est partis manifester. On a fait des pancartes avec les enfants, on les a fait participer.
Qu'est-ce que vous aviez écrit sur les pancartes ?
Alors on avait écrit « on veut pas de dealer », etc. Et on est parti à la mairie. Bon, ça a marché parce que les habitants ont fait le nécessaire, ils sont restés en bas toutes les soirées jusqu'à très tard. Pour qu'ils reviennent, tous les soirs ils sont en bas pour surveiller et pour qu'on soit en sécurité. On fait comme on peut.
Aujourd'hui encore, les rondes de voisins continuent au pied des tours de la résidence Belle-Ombre. Il faut une présence quasi permanente pour empêcher les dealers de revenir. Les patrouilles de police ne suffisent pas, expliquent les habitants.
Merci Mathilde Vinceneuf. Adela Ouidev, je voudrais votre réaction. C'est ce que vous faites, ce que vous venez d'entendre là, dans le quartier de la Busserine?
Non, 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 on ne fait pas ça. C'est très bien, je suis très heureuse pour ce quartier. L'installation et le début de l'installation d'un réseau et un réseau déjà installé, c'est pas la même chose.
Parce que vous, le réseau, il est installé, il est enquisté dans le quartier.
Tout à fait, tout à fait.
Donc comment est-ce que vous arrivez à mobiliser les familles et à avoir une action citoyenne?
Les familles sont mobilisées, ouais. Contrairement à ce qui se dit, contrairement à ce qu'on entend malheureusement. Les familles ne sont pas pour avoir des réseaux dans le quartier. On essaye d'occuper au maximum les bas d'immeubles. On est toujours dans l'occupation de l'espace commun pour pouvoir ne pas être exclu de notre quartier. Mais après, un réseau installé depuis des années, c'est pas le travail de l'habitant et c'est pas le travail des associatifs et c'est pas le travail des centres sociaux d'y mettre fin, quoi. On pallie beaucoup de manques, comme disait
Philippe Pujol.
C'est des carences qui sont menées par les politiques des années, des décennies durant, que nous on pallie depuis des décennies, mais on arrive à un point de non-retour. Et l'assassinat de Mehdi Kessassi en est la preuve, mais on peut pas faire plus que ce qu'on fait aujourd'hui. On essaiera toujours, on n'abandonnera jamais. Mais faut comprendre que c'est où l'État comprend vraiment et donne les moyens qu'il faut et mobilise les ministères concernés, où ça va être de pire en pire. Et là, ça va passer en mode mafia et ça va passer sur quelque chose de plus important. On a quand même des policiers qui sont corrompus. Il s'est passé des choses quand même très graves ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de publications qu'on suit et qu'on regarde, les habitants savent. Donc c'est beaucoup de peur, de doute et voilà, on continuera toujours de toute façon.
Les jeunes qui dealent dans votre quartier, vous les connaissez?
Non, c'est souvent malheureusement. Donc c'est un des volets qui a fait que la situation en est arrivée là où elle est aujourd'hui. Ça va être beaucoup des jeunes fugueurs qui ne sont pas de la ville de Marseille. Ça va être après des jeunes des quartiers extérieurs qui vont venir, et peut-être que les jeunes qui sont happés par le deal et par ce trafic de notre quartier vont aller dans un autre. Ils vont pas dealer là où ils habitent en fait. Mais on a de plus en plus de jeunes qui ne sont pas de la ville, qui fuguent des foyers, qui sont de la ZEU en fait.
Olivier Laurent, réaction, président du tribunal judiciaire de Marseille. Il y a beaucoup de jeunes aussi issus de l'aide sociale à l'enfance que l'on retrouve dans ces dossiers.
Oui, c'est un des phénomènes que l'on constate. D'abord, c'est le recrutement de ces jeunes sur les réseaux sociaux et qui viennent de toute la France sans connaître Marseille et qui sont assez vite transformés en forme d'esclaves par ces narcotrafiquants. Ce que je veux dire, c'est que les services de l'État ne démissionnent pas, loin de là. Je l'ai indiqué, le tribunal judiciaire de Marseille a été renforcé à hauteur de 20% de magistrats supplémentaires en l'espace de 4 ans. Le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur se sont déplacés à la suite de l'assassinat de Mehdi Kessassi. Le garde des Sceaux s'est engagé également pour que le tribunal, outre les renforts qu'il a déjà obtenus, et 10 magistrats de plus d'ici septembre 2026. Donc on voit bien qu'il y a une vraie prise de conscience de l'autorité judiciaire, mais aussi des services de l'État, ce qui n'était pas le cas en 2022-2023, lorsque nous avions été entendus par la commission d'enquête sénatoriale, puisqu'on nous avait reproché de tirer une sonnette d'alarme.
D'être trop alarmiste.
Ce qui avait d'ailleurs incité le Conseil supérieur de la magistrature à rappeler que des magistrats pouvaient librement exercer leur liberté de parole devant une commission d'enquête sénatoriale.
Ce que vous aviez fait à l'époque, Olivier Laurent, et ça avait été extrêmement commenté. Quelle est l'action, et c'était votre question, Fadela Ouidef, parce qu'évidemment les habitants, les riverains ne peuvent rien seuls, quelle est l'action de la justice et des forces de police ici à Marseille et dans son agglomération? Gérald Darmanin, ministre de la Justice, Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, ont appelé il y a quelques jours à faire beaucoup plus. J'ai rencontré ce matin Corinne Simon, qui est la préfète de police déléguée à Marseille. Voilà le constat qu'elle fait de la situation.
Le trafic de stupéfiants sur Marseille, on va être très clair, il prend une place de plus en plus importante. Il y a de plus en plus de produits qui circulent, il y a de plus en plus de consommateurs, il y a de plus en plus de dealers. Plus qu'un combat, c'est une guerre que l'on mène. C'est le pilonnage des points de deal. Nous avons aussi, grâce notamment à la nouvelle loi de narcotrafic du 13 juin 2025, la possibilité sur un plan administratif de mobiliser trois leviers. Le premier levier, ce sont les expulsions malocatives. C'est-à-dire que nous avons maintenant la possibilité de pouvoir mettre un terme au bail des trafiquants qui sont dans des logements mais sociaux et qui trafiquent du stupéfiant. Le deuxième levier, ce sont les interdictions administratives de paraître. J'en ai signé 53 à ce jour. Ça permet d'éviter aux dealers de pouvoir être sur un point de deal et donc d'assécher les points de deal. Et puis nous avons le troisième levier qui est le levier des fermetures des établissements qui reçoivent du public. J'en ai fermé 11 aujourd'hui. Ça va des bars, aux épiceries, aux CBD, aux salles de sport, aux garages. Et puis à côté de ça, donc le bas du spectre, vous avez le haut du spectre. Et cette fois-ci, l'idée c'est de pouvoir s'attaquer aux têtes de réseau. Vous avez 16 têtes de réseau de la Castellane qui ont été interpellées, qui aujourd'hui sont en prison. Et cette idée, là aussi, c'est de pouvoir isoler complètement ces narcotrafiquants de façon à ce qu'ils ne puissent plus commanditer des homicides, ce qu'on appelle des narcomicides depuis leur prison, ou de pouvoir organiser les trafics de stupéfiants depuis leur prison.
Vous étiez hier soir dans le 14e arrondissement. Les agents de la Maison de la Solidarité, qui sont des agents du département, exercent leur droit de retrait. La logique est la même sur le site de Saint-Mauron, d'Orange. Certains salariés ne se sentaient plus en sécurité. Orange a décidé de fermer. Et qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à Orange et à ses salariés ?
Alors la décision de fermeture, déjà, elle ne m'appartient pas. C'est une décision d'Orange. Maintenant, je peux comprendre la crainte, je peux comprendre la peur des salariés. Une psychose a pu aussi se mettre en place. J'ai fait visionner toutes les caméras. Nous n'avons retrouvé ni armes, ni calibre, ni douille, ni personnes blessées. Les hôpitaux n'ont pas accueilli des personnes blessées dans cet horaire-là. Nous avons immédiatement, dès la semaine dernière, renforcé par des rondes et patrouilles. Je me rendrai moi-même voir le directeur régional d'Orange le 10 décembre prochain et nous mettrons un dispositif, évidemment, de sécurité encore un peu plus important pour la reprise des salariés. Il est véritablement important que les salariés puissent reprendre sur ce site. Il faut montrer aussi que on fait face à ces délinquants, on fait face à ces réseaux criminels. Et moi, mon rôle, c'est véritablement de pouvoir permettre à ces salariés de reprendre le travail en toute sécurité.
500 policiers en plus à Marseille, nous dit Corinne Simon, depuis 2022, et aujourd'hui un peu plus de 80 points de deal. Ce sont ces chiffres. Ces salariés d'Orange, Philippe Pujol, qui refusent de reprendre le travail dans leur site parce qu'ils se sentent menacés, c'est le signe que le monstre, c'est comme ça que vous l'avez baptisé, progresse, que son emprise est de plus en plus grande sur la ville ?
Non, là, c'est lié vraiment à un quartier, à un secteur. C'est un quartier où il y a eu une guerre entre plusieurs réseaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a 3-4 réseaux qui se font la guerre. C'est pas un quartier qui fait un très gros chiffre d'affaires. C'est la clientèle de là-bas, c'est plutôt une clientèle très pauvre. Et donc, ce sont des petits chiffres d'affaires. Donc, c'est des affrontements pour pas grand-chose. Mais quand on est endetté, on a besoin de faire effacer la dette de l'autre, celui à qui on doit des sous. Quand on est endetté, ou quand on nous doit de l'argent, on va peut-être mettre une pression. Il faut pas mollir, il faut pas se montrer faible. Donc il faut parfois avoir une action très violente sur l'autre. Et donc c'est un quartier qui, depuis 2018 à peu près, est assez mouvementé. Il y a eu des interpellations, il y a eu du travail de fait, mais c'est un quartier... Parce que justement, c'est pas la Castellane où il y a un réseau de stupes très implanté depuis très longtemps, et que là, ce sont des réseaux plutôt faibles qui vont s'entretuer. Donc, oui, il y a une violence. Après, moi, je ne connais pas les conditions de travail des gens là-bas, mais c'est un quartier où, en effet, ça s'agite.
On a parlé de l'action de la police, Fadela Ouidef. Vous me disiez, quand on a discuté ensemble hier soir, on est content que les ministres de la Justice et de l'Intérieur soient venus, mais il faut que l'action, elle soit plus large, en fait.
C'est ça.
Les policiers, on leur fait confiance. Ce sont les mots que vous m'avez dit. Les policiers, on leur fait confiance. C'est leur travail.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la police vient dans les quartiers, les habitants sont contents. Ouais. On est dans une ville, pour les autres villes je saurais pas dire, mais chez nous c'est pas un problème que la police vienne, c'est pas un problème que la police harcèle le réseau pardon, tout ça on est tout à fait d'accord avec. Après le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur, il y a pas de problème, on sait qui sont sur le dossier. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la politique publique sur la santé, sur la prévention, c'est ce qui se passe à l'éducation nationale. C'est des petits de 14, 15 ans qui sont déscolarisés et que les services compétents ne peuvent pas suivre. C'est ces jeunes de l'ASE qui viennent et quid, qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes-là ? Nous, quand on les voit et quand on leur parle, on a rien à leur proposer. Et il y a une chose aussi sur laquelle je voulais revenir, c'est la satisfaction vis-à-vis du fait qu'on expulse les familles de ceux qui sont condamnés pour trafic de stupéfiants. Je rappelle qu'aucune mère au monde ne veut que son fils devienne trafiquant. Mmh.
Sur les jeunes, Olivier Laurent, vous avez en tête une expérimentation pour essayer de les sortir de ces réseaux. Vous allez essayer de monter ça dans les prochaines semaines ?
Oui, il y a un projet de convention entre la juridiction, la ville de Marseille et des bailleurs sociaux pour parvenir à exfiltrer des familles qui sont menacées. Parce que bien souvent, ces mineurs sont des auteurs, puisqu'ils participent au trafic, ouais. Mais ils sont aussi, ça a été très bien dit il y a un instant, aussi des victimes, en réalité, avec les risques d'être victimes d'actes de torture, de barbarie et d'assassinat. Donc, ils ont cette double casquette. Et pour les juges des enfants, il serait essentiel de pouvoir, dans les cas les plus extrêmes, mais à Marseille, il y en a, de pouvoir exfiltrer non seulement le mineur, mais aussi sa famille, qui fait l'objet des menaces. Ce que je voudrais ajouter également, c'est qu'en matière de prévention, il faut vraiment que chaque consommateur de joint, chaque consommateur de rail, de cocaïne, se dise qu'il a potentiellement du sang sur les mains. Parce que derrière cette consommation, c'est cette ultra-violence qui fait des victimes toutes les semaines.
Je voudrais justement vous faire écouter le témoignage d'un jeune homme. Il a 17 ans, on va l'appeler Roméo. Il est en terminale dans un lycée du centre de Marseille. Tout près d'ici, il consomme du cannabis.
Bah moi, j'ai vécu des gens qui viennent me proposer des Snapchat. La dernière fois, on m'a donné un papier avec un QR code. Ils me disent, on vend des choses bonnes et tout, des trucs... Des fois, je suis posé avec des collègues, je sais pas, au bar ou quoi. Bah, dans le premier arrondissement, moi, je suis vers le cours Julien, la plaine, tout ça. Souvent, les gens qui livrent, c'est pour du shit ou pour de la beuh, des trucs comme ça. Il y a des tarots à partir de 30 euros. On donne une adresse, ensuite, ça arrive par scooter, quoi. Et tu donnes l'argent et ils te donnent ce qu'il faut. Voilà. C'est des gens qui font marcher leur business comme ils peuvent. Hein. Je sais que moi, je suis pas addict, je suis pas là à fumer tout le temps. Forcément, on a un peu des maux de cœur quand il y a la police qui passe, par exemple. Il faut, si on a des choses sur nous, bien sûr, ça nous stresse et tout. Je vois beaucoup de gens fumer à Marseille. C'est comme une habitude, hein. Ça fait longtemps qu'il y a des gens qui nous abordent comme ça. Depuis mon plus jeune âge, je suis entouré de ça, donc voilà. Non, ça me choque pas.
Voilà, vente de drogue, pas uniquement sur les points de deal. Alors la porte d'entrée de cette drogue, c'est souvent le grand port maritime de Marseille. Fosse, 1,5 million de conteneurs y arrivent chaque année pour traquer notamment la cocaïne cachée à l'intérieur des cargaisons. Les douaniers peuvent compter sur un scanner mobile. Il est en service depuis un an. C'est le premier à avoir été déployé dans un port français. Mathilde Vinceneux, on vous retrouve. Mathilde, vous avez assisté à un contrôle.
Oui, sur le bassin est du grand port de Marseille, les douaniers travaillent avec armes à la ceinture et gilets pare-balles. Les conteneurs sont scannés par un petit camion blanc et ils ne sont pas choisis au hasard. C'est ce qu'explique Jérôme Salès, chef de la division portuaire des douanes de Marseille. Ils arrivent de pays sensibles. Ceux-là sont remplis de fruits.
Provenance Colombie, Guayaquil, Équateur. On a surtout les bananes qui viennent d'Équateur.
On est sur de la recherche de cocaïne sur des pays qui sont soit des pays de production, soit des pays d'envoi de cocaïne sur le territoire européen. L'année dernière, la brigade avait pu saisir deux fois 50 kilos de cocaïne dans ce type de conteneur sur ce type de provenance. On sait très bien que des chargements de produits stupéfiants représentent plusieurs millions d'euros de valeur à la revente au point de deal. Hein.
Impossible pour les douaniers de contrôler tous les conteneurs, alors ils ciblent, ils repèrent les anomalies. Pour les conteneurs de fruits, le temps du voyage est un indice. Jérôme Salès.
Les fruits doivent être livrés assez rapidement puisqu'ils sont réfrigérés. Et le fait de, par exemple, voir que le conteneur met plus de temps dans son acheminement est un critère de sélection pour nous.
Et quand il y a un doute après le scanner, les douaniers ouvrent le conteneur, comme celui-ci en provenance de Martinique.
Un conteneur de déménagement qui peut être utilisé soit par les organisations criminelles à l'insu de la personne qui déménage, soit la personne qui déménage peut être rémunérée pour transporter des colis
La dernière saisie ici remonte à l'été dernier, 140 kilos de cocaïne cachés entre des rouleaux de papier industriel. Chaque année, les douaniers marseillais contrôlent environ 10 000 conteneurs. C'est moins d'1% de ce qui arrive sur le grand port de Marseille-Fos.
Merci Mathilde Vinceneux pour nous avoir expliqué l'un des volets de la lutte contre ce trafic de drogue. Olivier Laurent, il y a aussi, et c'est une alerte au sein des services de l'État, des cas sporadiques de corruption. Le parquet de Marseille a lancé une cellule anticorruption il y a quelques mois. Le procureur de Marseille l'a annoncé, c'est une première en France. Vous avez des cas de policiers, de magistrats corrompus? Vous avez des soupçons? C'est ce qui a amené cette démarche?
Oui, il y a des affaires en cours mettant en cause à la fois des policiers, mais aussi des agents du greffe, des agents pénitentiaires. C'est le cas à Marseille, mais c'est le cas un peu partout en France. Le procureur Nicolas Besson a effectivement souhaité créer cette cellule de lutte contre la corruption. En interne, au sein de la juridiction, avec notre directrice de greffe, nous avons mis en place un certain nombre de formations de nos agents, agents fonctionnaires mais aussi contractuels, pour les sensibiliser au risque corruptif qui est indéniable compte tenu des moyens dont disposent ces réseaux de narcotrafic. Et nous avons également amélioré la traçabilité des consultations de fichiers qui est un des moyens pour les narcotrafiquants de se renseigner sur les affaires en cours.
Alors parmi les volets de ces activités criminelles, il y a de plus en plus, et Corinne Simon, la préfète de police déléguée à Marseille, nous l'a dit tout à l'heure, des tentatives d'extorsion de fonds. Bernard Marty, vous êtes vice-président de la CCI, président de l'UMI dans les Bouches-du-Rhône. Est-ce que vous le constatez? Est-ce que vous sensibilisez vos adhérents à ces extorsions de fonds? Il y a certains dossiers qui concernent des bars et des restaurants.
Bien sûr qu'on fait en sorte de sensibiliser tous nos adhérents, tous nos mandants, pour qu'on fasse en sorte qu'ils soient protégés. D'ailleurs, on a, avec la préfecture de police et Corinne Simon, des rapports relativement étroits permettant de pouvoir déposer plainte dans le plus grand anonymat pour protéger tous nos exploitants. Voilà. Ceci dit, concernant l'affaire d'Orange, nous, on est la chambre de commerce et très embêté avec ça et on prend ça très...
Orange, donc ce site qui a fermé dans le quartier de Saint-Mauron.
On prend ça très au sérieux parce que ça va signifier qu'à certains endroits de Marseille, on ne pourra plus se poser, on ne pourra plus ouvrir de commerce, on n'aura plus la liberté d'entreprendre. Nous, on veut conserver la liberté d'entreprendre et, je vous le disais tout à l'heure, plus de violence, plus de police. Parce que, à un moment donné, la police ne peut pas tout résoudre parce qu'elle n'augmente pas aussi vite que ce qu'augmente la sécurité, l'insécurité dans Marseille. Parce que l'insécurité dans Marseille, c'est pas seulement le narcotrafic. C'est y compris toutes ces incivilités permanentes qu'on vit dans Marseille. C'est-à-dire, c'est des commerces qui sont empêchés de travailler à certains moments par des personnes autres que les narcotrafics.
Mais vous avez peur que des gens renoncent à venir entreprendre ici à Marseille?
Bien sûr.
Vous le constatez déjà, ça, ou pas? Est-ce qu'il y a des gens avec qui vous êtes en discussion et vous dites, moi, à Marseille, je viens pas?
Nous le constatons, et effectivement, nous, Chambre de commerce, faisons tout pour que ce problème soit réglé. Je vous le dis, en collaboration, parce que nous, on a tendance à beaucoup collaborer avec la préfecture de police et signifier à certains endroits, quand on a des problèmes, de faire en sorte que des patrouilles de police soient là. Bien sûr que on fait en sorte qu'on puisse continuer à travailler, à vivre et à pouvoir exploiter nos commerces dans Marseille librement.
Philippe Pujol, vous qui documentez ce trafic depuis des années, est-ce que on arrive parfois à le faire reculer? Le point de deal de la Paternelle, par exemple, a fermé, c'est l'une des réussites. Est-ce qu'il y a des quartiers de Marseille dans lesquels la drogue disparaît durablement?
Ça va toujours être possible, oui. Ouais. Ça va demander un travail autre qu'un travail policier. Le travail policier et judiciaire est nécessaire, mais c'est un travail d'infirmier, ça. C'est un travail de soins. C'est-à-dire, il y a un symptôme, le trafic de stupes, qui est le symptôme d'une maladie plus grave, l'injustice sociale, l'injustice fiscale, toutes les injustices, puisqu'il y a les zones franches qui bénéficient pas aux gens des quartiers, par exemple. Ouais. Donc, il y a énormément de problèmes politiques à régler. Donc la solution pour ces quartiers-là, elle va plutôt être sur de la santé publique, sur du long terme, pour qu'un quartier puisse être reprendre son souffle.
Mais est-ce qu'il y a des exemples de réussite?
La Paternelle.
Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe?
Après la Paternelle, ça a été parce que symboliquement parlant, c'était le berceau des Yoda qui était
le clan rival de la DZ mafia. Voilà.
Il y a eu un symbole c'était du bon sens que de le faire, que de mettre de forts moyens pour que cette cité ne soit plus une cité des stupes. Donc, ça demande encore de moyens extrêmement fort pour les maintenir comme ça. Il y a uniquement quand une entreprise va s'installer et va créer de l'emploi qu'on peut espérer sur un terme de 4-5 ans, c'est-à-dire au-delà d'un mandat. Hein. C'est ça le problème aussi, c'est que le rythme politique, parce que tout ça, la réponse est politique, voilà, elle n'est pas policière et judiciaire, et donc elle dépend beaucoup des élections. Et le problème d'une élection, c'est qu'on a besoin immédiatement d'être élu, donc de dire... on veut des policiers. Mais la réponse est absolument policière. Oui, il y a des succès, mais ça ne peut se faire que sur du temps long et uniquement en y mettant des moyens humains, des moyens de service public. Alors, c'est un gros mot aujourd'hui, hein, mais quand même, il faut du service public à nouveau. Parce que les quartiers populaires, moi je dis pas quartier nord, parce qu'il y a des quartiers nord dans le sud de Marseille aussi. Hein. Et donc, les quartiers populaires, quartier nord, c'est un label. Hein, les quartiers populaires...
Pardon d'y avoir succombé.
C'est... ouais, c'est je comprends, les narcotrafics dans les quartiers nord, ça la gueule quand même. Mais c'est vrai qu'après, c'est la réponse sera politique de toute façon et pas autre chose, pas policière. C'est les infirmiers, les policiers.
Je pense qu'on est quand même allé depuis 13 heures au-delà de cette caricature ensemble dans ce 13-14. Fadela Ouidev, vous pouvez aussi témoigner qu'on réussit quand on vient des quartiers nord, même si c'est une course avec plus d'obstacles que les autres. Vous pouvez nous parler de vos deux grandes filles.
J'avais pas prévu d'en parler, mais oui, il y a beaucoup de jeunes et pas que mes enfants qui s'en sortent ou en tout cas qui ont de l'ambition, voilà. C'est 100 fois plus difficile pour les jeunes de ces quartiers-là, mais il y en a qui rêvent de réussite, il y en a qui rêvent de partir, il y en a qui rêvent, et même les parents, et même on rêve tous de mieux, en fait. Et il y en a qui finissent ingénieurs, il y en a qui finissent médecins, qui sont là pour être un peu des modèles, et qui viennent et qui essayent de tirer cette jeunesse un peu embourbé dans sa misère, qui essaye de la sortir de tout ça, et c'est très bien.
Mes enfants font partie. Discipline et d'une volonté de faire.
Volonté de faire, discipline plus. Ouais. Mais on n'a rien sans rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que de nos jours, dans les quartiers populaires, c'est très dur d'y arriver. C'est très dur d'avoir un bon lycée. On est combien de pourcentage de collégiens qui sont envoyés vers les bac pro, les CAP. C'est très, il y a rien qui va en fait dans la vie de cette jeunesse. Il y a rien qui va. Les perspectives de réussite sont très faibles. Et la meilleure perspective qui se présente à eux et là où les bras sont ouverts, c'est le trafic.
Il faut changer ça. Merci de l'avoir dit.
Il faut changer ça, oui.
Fadela Ouidev, Bernard Marty, un dernier mot. Vous vouliez dire que voilà, il faut venir à Marseille investir. Et Marseille, ça n'est pas que le trafic.
Bien sûr,
Marseille
a des projecteurs sur elle de manière régulière. C'est-à-dire que ce qui se passe à Marseille se passe ailleurs. Donc je le dis avec clarté, Marseille est une belle ville dans laquelle on doit créer les conditions de pouvoir investir, de pouvoir travailler dans la plus grande des sécurités. Et Marseille, vous savez, on a toujours tendance, et je connais bien les quartiers nord puisque j'ai été élu il y a quelques années dans les quartiers nord. Marseille, il n'y a pas que les quartiers nord, il y a Marseille tout entière, et elle vit de la même manière partout. Il n'y a pas la vie des quartiers nord, la vie des quartiers sud. Marseille est une ville cosmopolite, mais qui a tout pour réussir. Donc, protégez-nous et laissez-nous réussir.
Marseille sera rassemblée dimanche, Bernard Marty, un grand événement. Dimanche, l'inauguration de la basilique Notre-Dame de la Garde restaurée. On aime bien, dans ce 13-14, faire un clin d'œil à la ville qui nous reçoit au-delà de l'actualité qui nous y amène. La basilique Notre-Dame de la Garde restaurée, c'est le DJ Michael Canitro qui en sera le directeur artistique.
Un challenge pour moi en termes de musique, puisque je me suis lancé dans la... réinterprétation, on va dire le retravail d'une œuvre classique, donc l'Ave Maria, qui va commencer de façon très classique et qui va monter crescendo plutôt dans un univers électronique qui est plutôt le mien à la base. Et puis ensuite, il y aura une création visuelle, un premier tableau qui va évoquer en fait un lever du jour, une lumière de l'aube un petit peu. Ensuite, un deuxième tableau célébrant le lien entre la bonne mère justement et la mère, donc un tableau beaucoup plus dans les bleus turquoises au niveau de la lumière. Ensuite, un troisième tableau qui sera sur le thème de l'élévation, avec des grands faisceaux lumineux qu'on va voir jaillir du sol vers le ciel, de côté très très vertical. Et puis un dernier tableau qui viendra clôturer, qui est le tableau que j'ai appelé Rayonnement, qui sera un tableau en fait qui viendra justement célébrer le retour de la statue restaurée, et en particulier de sa couronne, dans les tons dorés à 360, et qui viendra illuminer toute la ville de Marseille.
est-ce que vous écoutez en exclusivité sur Inter, c'est sa relecture contemporaine de l'Ave Maria qui sera donc diffusée dimanche à l'occasion de cette inauguration. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui, merci à nos invités Fadela Ouidef, Philippe Pujol, Bernard Marty, merci à Olivier Laurent d'avoir été avec nous également, président du tribunal judiciaire de Marseille. Benoît Jégou était notre chargé de production, Sandrine Malon et Gilles Gallinaro à la technique, Cécilia Arbona notre rédactrice en chef et Camille Poux-Jalaguet notre chargée de programme. La journée spéciale se poursuit sur Inter et dans un instant Stéphanie Duncan, le fil de l'histoire.